Chapitre 4. Tout est si simple. Agathe pense aller faire un peu de jogging. Elle enfile un survêtement souple par-dessus un short et un t-shirt en coton. Elle prend ses chaussures de course. Elle a la ferme intention de se défouler. Pas question de se laisser intimider par Roland Matisse. Elle fait une halte à la cuisine pour y remplir un sac de bouteilles vides qui encombre depuis un petit moment déjà. Elle va faire un crochet par la cave, cela débarrassera. Sans être une fanatique absolue du ménage et du rangement, Agathe essaie de garder un espace de vie agréable. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose est un peu sa devise. Elle est loin de l'appliquer à la lettre, mais se la rappeler de temps en temps ne fait pas de mal. Comme à l'accoutumée, la minuterie crachote quelques clignotements et l'ampoule répand une lumière jaunâtre avec parcimonie dans le couloir du sous-sol. Il faudra que je le signale au gardien, se dit-elle. Des pas vifs résonnent derrière elle, mais alors qu'elle se retourne pour saluer un voisin, un objet dur lui frappe l'arrière de la tête et elle trébuche au moment où des bras forts l'encerclent et l'empêchent de tomber. Elle n'a pas le temps de réaliser ce qui lui arrive. Un chiffon se presse contre son visage. Une forte odeur d'éther lui remplit les narines et les cœurs. Elle suffoque et s'effondre. Évanouie. Roland Matisse la soulève et l'entraîne à l'entrée de la cave où il a garé la Clio. Il s'assure d'un regard que personne ne l'observe, ouvre le hayon, bascule Agathe dans le coffre, va s'asseoir derrière le volant et démarre. Personne ne l'a vu. Il s'en assure d'un coup d'œil panoramique. Aucun risque qu'une personne à la fenêtre ne l'ait remarqué. Un auvent lui fournit une protection adéquate. Quant à l'immeuble de l'autre côté de la rue, il est occulté par une palissade tout en hauteur qui bouche la vue sur le sous-sol. Les voisins avaient signé une pétition pour avoir une haie de thuya ou quelques conifères similaires. D'autres avaient argué que les arbres nécessiteraient de l'entretien, donc des frais supplémentaires. Ils avaient opté pour une palissade en béton sur laquelle grimperait un lierre. Roland Matisse sourit en lui-même en pensant à ces débats houleux rapportés dans la NR et qui lui valent maintenant de pouvoir œuvrer en toute tranquillité. Roland Matisse accélère après le poinçonnet. Il a roulé depuis Châteauroux sans problème. Il vient de téléphoner à sa belle-mère pour lui annoncer sa venue avec Julia. Un gros mensonge. Julia n'est pas avec lui, bien sûr, mais il a juste besoin qu'elle le croie. Si jamais on l'interroge, elle pourra confirmer qu'il venait avec sa fille. De toute façon, Clara devient sénile, se dit-il. Loin de lui l'idée d'aller à Neuvy maintenant. Il doit en premier lieu se débarrasser de son colis. On verra après. La salope, elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui saute dessus. Quand il en aura terminé avec elle, elle arrêtera de lui casser les pieds. Elle se souciera un peu moins de Julia. Il sait exactement comment s'occuper des emmerdeuses dans leur genre. Julia, elle l'a bien compris. Elle ne lui mettra plus aucun bâton dans les roues. De cela, il s'en est assuré. Ces putes ne lui gâcheront plus la vie. Elles verront bien qui commande. Rien que d'y penser fait monter en lui une rage froide. Encore étourdie, Agathe ouvre les yeux. Tout est noir. Elle a mal à la tête. Immédiatement, elle comprend être dans le coffre d'une voiture. Les chaos la brinquent de droite à gauche. Elle a du mal à bouger les bras dans cet espace réduit. Tant bien que mal, elle dégage son bras gauche. Elle porte la main à sa tête et sent la bosse en train de se former sur l'arrière de son crâne. La scène lui revient à l'esprit. Cet enfoiré l'a assommée et mise dans le coffre de sa voiture. Si c'est la voiture de Julia, c'est une Clio. Du bout des doigts, Agathe palpe le plancher, agrippe les bords du tapis de sol et le soulève. Elle ne s'est pas trompée. Elle sent sous ses fesses la trappe de la roue de secours. Impossible de soulever le plancher du coffre puisqu'elle est dessus. Le coffre est presque vide à l'exception d'une boîte qui lui rentre dans la hanche maintenant qu'elle s'est légèrement déplacée. Elle la palpe et sent avec sa paume un couvercle. Dans le noir, elle tâtonne et ouvre le crochet qui le tient fermé. Elle jubile. Elle reconnaît avec ses doigts quelques outils. Tournevis, marteau, clé d'après ce qu'elle peut en déduire au toucher. Elle s'empare d'un tournevis plus facile à dissimuler le long de sa cuisse. Sa position n'est pas des plus confortables, recroquevillée, le dos contre la banquette arrière, mais dès que le coffre s'ouvrira, elle fera face à l'ouverture. Elle tient fermement le tournevis dans sa main, une arme efficace à n'en pas douter. Les chaos de la voiture lui signalent qu'ils ont quitté l'asphalte et roulent maintenant sur un chemin de terre. Dans un pré, en forêt, Agathe ne saurait le dire. Mais s'il a l'intention de faire ce qu'elle croit, elle opterait plutôt pour un bois. En déplaçant légèrement son bras gauche, Agathe sent un bout de bois rond. Un manche, lui vient-il à l'esprit. Malheureusement, l'espace est trop restreint pour qu'elle puisse poursuivre son investigation. Toutefois, la vision est claire. L'imbécile a l'intention de la tuer et de dissimuler son corps dans un trou au fond des bois. D'où la nécessité d'avoir une pelle. Donc, oui, c'est un manche. Tout ce qu'elle demande, c'est qu'il ne lui tire pas une balle, car alors son plan échouerait lamentablement. D'après le ronflement du moteur, la voiture ralentit. Le chemin semble de moins en moins praticable si elle se fie aux secousses qui la font se cogner de droite à gauche. Un soubresaut, plus grand que les autres, envoie son crâne cogné contre le toit du coffre et elle retient à grand-peine le cri qui tente de lui échapper. Mais plus important, ses doigts n'ont pas lâché prise et tiennent fermement l'acier du tournevis. Agathe s'est remise plus ou moins dans la position où elle s'est réveillée. Il est primordial qu'il la croie toujours inconsciente. Elle hésite un peu sur la marche à suivre. Devra-t-elle l'attaquer dès qu'il ouvrira le coffre, ou bien sera-t-il préférable de le laisser s'éloigner avec la pelle pour aller creuser le trou? Elle répugne à blesser qui que ce soit. La voiture semble faire une manœuvre. Avant, arrière, avant, arrière, comme s'il faisait demi-tour. Elle n'a plus le temps de réfléchir à son dilemme. La voiture s'arrête, moteur coupé. L'homme ne descend pas immédiatement. L'attente tétanise Agathe. Elle ose à peine respirer, l'essence à l'écoute. Une odeur familière vient lui chatouiller les narines. Il fume une cigarette, un comble. La colère l'envahit, la peur aussi. Il est là, fumer tranquillement une cigarette, avec une femme kidnappée dans son coffre. Un véritable psychopathe. Enfin, après d'interminables minutes, la portière claque. Des pas crépitent sur des brindilles sèches. Un bois, pense machinalement Agathe. Elle ferme les yeux. Le coffre s'ouvre brutalement. Elle a vu juste. L'homme s'empare de la pelle. Il s'éloigne d'une dizaine de mètres. Elle le voit entre ses cils regarder autour de lui, puis s'enfoncer dans le sous-bois. Il va creuser ma tombe. Il a le dos tourné vers elle et dégage de ses branchages une partie du sol devant lui. Agathe lève un bras tout doucement. Elle agrippe l'arrière-plage et tire dessus. Rien ne se passe. Les cordelettes sont plus résistantes qu'elles paraissent, mais le mouvement a déboîté le panneau qui pend et laisse un passage par la banquette arrière. Avec un peu de souplesse et d'infinie précaution, Agathe se faufile au-dessus du dossier et atterrit sur le siège. Elle n'a pas lâché le tournevis dans l'exercice. S'il prend fantaisie à l'homme de revenir à la voiture, elle n'hésitera pas à le lui planter dans le crâne. Son cœur bondit lorsqu'elle voit les clés enfoncées à leur place dans le tableau de bord. Encore une escalade et elle peut s'asseoir à la place du conducteur. Elle met le contact. Le moteur démarre au quart de tour. Elle est sauvée. Dans le rétroviseur, elle aperçoit l'homme qui tente de lui courir après, la pelle levée au-dessus de sa tête, prête à frapper. Agathe accélère et passe ses vitesses en faisant hurler le moteur. Elle n'a cure des bosses et des trous. Arrimée au volant, elle fonce droit devant. Le signal de la ceinture de sécurité émet des bips stridents, mais c'est le cadet de ses soucis. La jauge d'essence est plus importante et le réservoir est à moitié plein. La silhouette de l'homme s'amenuise pour disparaître à un tournant. Les mains crispées sur le volant et le pied enfoncé sur la pédale de l'accélérateur, Agathe rejoint la grande route. Elle reconnaît la route de Châteauroux, tourne à droite, direction le Poinçonnet. Passée le rond-point, elle se gare sur la côté, devant une maison pour reprendre ses esprits. Son cœur donne de grands coups de boutoir dans sa poitrine, comme s'il voulait se frayer un chemin entre ses côtes. C'est seulement maintenant, après s'être calmée un tant soit peu, qu'elle réalise le danger auquel elle vient d'échapper. Aller au commissariat lui semble la chose à faire. Morel devra bien la croire maintenant. Elle trouve dans la poche de son sweat son téléphone. Rose décroche immédiatement à la première sonnerie. Agathe éclate en sanglots, incapable de dire un mot. Qui c'est? Allô? Allô? Inquiète, Rose s'époumonne. C'est toi, Agathe? Réponds-moi. Rose, Rose. Agathe balbutie le nom de son amie. Oui, oui, je suis là. Dis-moi ce qui se passe. C'est lui. Agathe ne peut dire autre chose avant de fondre en larmes à nouveau. Tu es où? Que se passe-t-il? Rose, Rose, il m'a attaqué et a voulu me tuer dans la forêt. Il était prêt à creuser ma tombe. Horrifiée, Rose s'écrie. « Dis-moi où tu es, j'arrive, ne bouge pas. » Rose comprend enfin que son amie a de graves problèmes. Sans penser immédiatement qu'elle vient d'échapper à un assassin, elle est tout de même persuadée qu'elle est en pleine crise. « Ne raccroche pas, reste en ligne. J'arrive !» lui dit-elle après avoir compris où Agathe se trouve. Près d'une voiture qu'elle ne reconnaît pas, Rose voit Agathe, assise par terre, appuyée contre la roue avant. « Mon Dieu !» pense-t-elle. Elle saute de sa voiture et prend Agathe dans ses bras en se penchant vers elle. Agathe ne peut plus retenir ses larmes et inonde l'épaule de Rose de ses pleurs. D'une voix entrecoupée de hoquets, elle narre les derniers événements à son amie. « Tu es blessée? Je t'emmène aux urgences. »« Non, emmène-moi au commissariat voir Morel. Laisse sa caisse ici, mais ferme-la et prends les clés. Il ne faudrait pas que quelqu'un la vole. » Ni que lui puisse s'enfuir. Au poste de police, c'est au tour de Morel d'ouvrir les yeux en grand quand il entend ce qu'Agathe a à dire. « Mon Dieu, c'est pire qu'incroyable que vous vous en soyez sorti. D'après ce que vous dites, nous n'aurions jamais su ce qui vous serait arrivé. »« N'en parlez pas, » intervient Rose. « Alors, vous me croyez maintenant ?» demande Agathe au policier. « Je vous ai toujours cru, mais il me fallait des preuves. Pourriez-vous retrouver l'endroit où il vous a amené ?»« Je le pense, oui, bien que cela ne me plaise pas énormément. Je comprends, mais nous pourrons y trouver des preuves, relever des empreintes, etc. »« S'appelle ?» Oui, ce serait la preuve ultime. Si tu ne te sens pas la force, commence Rose vivement interrompue par Agathe. Si, je veux le faire tout de suite. Agathe retrouve facilement le chemin forestier jusqu'à l'endroit où elle s'est enfuie avec la voiture. Restez là, s'il vous plaît, intime Morel. Il descend avec Jameau après qu'Agathe lui ait indiqué le sentier où s'enfonçait l'homme. Une seconde voiture arrive. Des policiers en descendent et, sur les indications de Morel, déploient de la rubalise. « Ici, chef !» s'écrie un des policiers. Morel s'avance et voit une pelle, probablement celle dont parlait Agathe. Il n'y a plus aucun doute sur le projet de Matisse. « Ben, elle a échappé belle, la petite dame !» énonce son collègue avec empathie. « Tu l'as dit !» riposte Morel soulagé. Pour une fois, le corps qui aurait dû se trouver là est encore bien en vie. La police scientifique arrive à la suite de Durandel. « Alors, il est où ?»« Nulle part, on s'est pointé avant. Même la tombe n'est pas encore creusée. »« Tu déconnes ?»« Pas du tout. La dame là-bas s'en est tirée. Elle a pu s'échapper avec la voiture du meurtrier raté. »« Putain, et on suppose que c'était son petit carré privé au mec ?»« Je ne sais pas. On fait venir une brigade canine. On ne sait jamais. »« D'accord, mais moi je n'ai rien à faire alors. »« Toi, tu es juste venu pour dire bonjour, » s'esclave Morel. « Bon ben, alors au revoir. » Durandel fait une sortie remarquée par Agathe et Rose. « C'est pas le médecin légiste ?» demande Agathe. « Je crois bien que si, » confirme Rose. « Qu'est-ce qu'il fait ici ? Tu penses que le corps de Julia est enterré dans ce bois ?»« Difficile à dire. On verra. »« Toi aussi, tu crois maintenant que Julia est morte, n'est-ce pas ?»« Je commence à avoir de sérieux doutes, en effet. »« Pour moi, c'est une certitude. »« Je le vois bien, et malheureusement, tu as peut-être raison. » Morel s'approche d'elle. « Madame, je vous remercie infiniment. » L'appel nous apprendra certainement qu'elle appartient à Matisse. On a lancé un avis de recherche et on va lui rendre une visite chez lui. Nous vous tiendrons au courant, s'il y a du nouveau, mais je voudrais vous conseiller de ne pas rester seul. Préférablement, même, de ne pas rester chez vous. Allez plutôt chez une amie. On ne sait jamais ce qu'un tel individu peut décider de faire. Vous pensez qu'elle est en danger ? Demande Rose. Mieux vaut ne pas prendre de risques dans une telle situation. Si vous avez vu juste et qu'il a tué sa femme, ce que semblerait dénoter son comportement à votre égard ces dernières 24 heures, on ne peut savoir ce qu'il a en tête. Mieux vaut prévenir que guérir, termine-t-il en citant cet aphorisme bien connu. Tu veux venir chez moi, annonce Rose péremptoire. Il ne connaît pas mon adresse. Bien, cela me semble parfait. Passez demain au commissariat, faire une déposition écrite. Les deux amis prennent congé. Morel et Jameau inspectent du regard le lourd portail en fer forgé plein à la recherche d'un bouton de sonnette. Morel le découvre au-dessus de la serrure. « Bizarre comme endroit, » remarque-t-il. « D'habitude, les gens mettent la sonnette sur le pilier ou alors près du portillon. » « Oui, mais là, le portillon est encastré dans le portail. Donc, en fait, c'est assez logique. »« Si tu le dis, » rétorque Jameau, vexé de ne pas y avoir pensé tout seul. Il appuie d'un doigt rageur sur le petit bouton de cuivre qui semble le narguer. Le portail est trop haut pour laisser voir quoi que ce soit derrière. Il tend l'oreille, essayant de capter un bruit de pas, un appel, mais rien, à l'exception d'un chien qui aboie chez le voisin d'en face. Pas content, le doutou. Doit pas aimer les flics, plaisante Morel. Probable. Jameau presse encore une fois et plus longuement sur la sonnette sans résultat. Ils s'apprêtent à remonter dans leur voiture quand le voisin au chien les interpelle et vient vers eux. « Si vous voulez le voir, dit-il avec un geste de la main en direction de la villa de Matisse, il doit être là. Il est parti, puis revenu. »«
Parti ? Relève Morel. »«
Oui, parti en voiture. »«
Quand ça ?
Hier au soir, et je crois qu'il doit déménager des trucs ou aller en vacances. »«
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Demande Jameau, qui voit déjà très bien pourquoi, mais veut faire parler le bonhomme. On ne sait jamais. »
Il avait tout un tas de valises. Même que je me suis dit qu'il devait pas prendre l'avion avec tout ça. Son coffre était plein et il en a mis sur la banquette arrière et sur le siège passager. Où il allait, je ne lui ai pas demandé. On ne se connaît pas encore. Il vient tout juste d'aménager. Cela m'a paru bizarre. Des fois, quand les voisins s'absentent, ils demandent de jeter un œil pour eux, relever le courrier, mettre l'arrosage en route. Ces petits trucs, quoi. Lui, non. Il m'a fait un signe de tête, c'est tout. Alors j'ai fait pareil. Hier au soir, l'arrosage s'est mis en route tout seul. Il a dû mettre un minuteur et peut-être qu'il fait suivre son courrier, je me suis dit. Très tard, il est revenu, mais en taxi. Renaud l'a vu et m'a prévenu.
Renaud.
Mon compagnon. Lui, fait le bonhomme en désignant de la main le labrador chocolat. Le chien dresse les oreilles à l'énoncé de son nom.
Et pourquoi vous pensez qu'il est toujours là?
Ben, dame, il n'est pas reparti ou Renaud me l'aurait dit. Regardez dans le garage, il doit y avoir l'autre voiture.
Le bonhomme évite de préciser que de son jardin, il a déjà regardé par-dessus la clôture pour s'en assurer.
« C'est possible, » prononce Morel dubitatif. « En tout cas, merci pour les renseignements. »«
Il a fait quelque chose ? Vous êtes de la police, non ?»«
Oh, rien de grave. On voulait lui demander un truc au sujet d'une affaire. Ça peut attendre. »«
C'est vous qui voyez, » répond le voisin avec un clin d'œil.
Au moment où Morel et Jameau tournent les talons et s'apprêtent à remonter en voiture, ils entendent le coulissement caractéristique d'une porte de garage qui s'ouvre. Donc, Matisse est bien chez lui. Pas pour longtemps. Les vantaux du portail s'écartent largement. Une BM bleu marine s'engouffre dans l'ouverture et vrombit sur l'avenue devant les deux policiers qui font de justesse un pas sur le côté pour ne pas être renversés. Morel a le réflexe de relever le numéro de la plaque d'immatriculation. Jameau, celui de photographier la voiture avec son portable. « Eh merde !» fulmine Morel, jetant un regard vers la maison. « Pas si vite !» lance Jameau qui suit la voiture des yeux et la voit s'encastrer dans le fourgon UPS à qui elle grille la priorité. Au pas de course, Morel et Jameau rejoignent les lieux de l'accident. « Regardez-moi cet incompétent !» rage le livreur UPS. « Quel inconscient !»« Inconscient, c'est sûr que Matisse l'est. » Dans sa hâte, il n'a pas pris le temps de boucler sa ceinture de sécurité, ce qui l'a propulsé la tête dans le pare-brise. Par un malheureux concours de circonstances, son airbag ne s'est pas déclenché. Déjà, Morel appelle les secours.
« Vous êtes témoin ?» veut encore savoir le conducteur.
« Et non-assistance à personne en danger, vous connaissez ?» demande Jameau. « Il y a un blessé, faudrait peut-être voir à faire venir des secours, non ?»«
Ça alors, c'est le bouquet. Ma portière est déglinguée, le mec me rentre dedans et c'est moi qui me fais engueuler. »
Juste pour mettre les priorités en ligne.
Heureusement que mon collègue a toute sa tête. Tenez, voilà les secours qui arrivent.
Votre collègue, Bégelga?
Oui, voici l'inspecteur Morel et je suis l'inspecteur Jameau.
Et vous êtes,
Laisse, intervient Morel. Monsieur est choqué. On oublie. Faites le constat et on signera.
Dans le quart d'heure qui suit, l'ambulance, les pompiers et une voiture de gendarmerie se garent à la file indienne. Le voisin, qui n'a pas perdu une miette des événements, revient sur le devant de la scène accompagné de son fidèle compagnon à quatre pattes.
« Il ne s'est pas raté, dites donc.
Vous pensez qu'il s'en sortira ?»«
Au moins quelques semaines d'hôpital, évalue Jameau. »
Un ambulancier fait la grimace à la vue de Matisse qui geint doucement. Avec d'infimes précautions, il lui passe un masque à oxygène avant de le palper doucement. À deux, il l'allonge sur le brancard et l'emporte, toute sirène hurlante. Morel, pendant ce temps-là, téléphone pour une commission rogatoire pour effectuer une perquisition de la maison.
« C'est bon, on peut y aller. C'est en route. Le juge nous rappelle. »«
Qu'est-ce que tu penses qu'il a emmené avant qu'on arrive, Matisse ?»«
Il doit avoir une maison secondaire, peut-être, non inscrite à ce nom, ou il pensait se planquer un moment. Je ne sais pas trop. »
Le téléphone de Morel fait entendre sa fanfare.
« Allô ?
Oui, Morel. »
D'une main, il couvre le micro et fait signe à Jameau qu'il s'agit du juge. Il raccroche après les renseignements d'usage. On a le feu vert. Sûr que le copain de Renaud voudra bien nous servir de témoin, s'esclave Jameau. Ils attendent le serrurier pour ouvrir les portes et musent sur le perron. Le portail n'avait donné aucune difficulté, le portillon n'étant pas fermé à clé. Jameau, sur la terrasse, essaie une porte-fenêtre qui s'ouvre sous une légère poussée. Hé, viens voir, la baraque n'est même pas fermée. Il fait le tour et la porte de la cuisine présente le même état. Comme si on l'avait prié d'entrer, il pénètre sur le sol carrelé, lavé de frais, il semble. Bizarre, non? C'est encore mouillé. Bah, certaines personnes aiment bien tout laisser propre quand elles s'absentent, répond Morel que l'envie de fumer tenaille depuis un moment, malgré le cure-dent qu'il mâchouille avec conviction. Jameau sort de sa poche des surchaussures qu'il tend à Morel, en train d'enfiler une paire de gants. « Tu penses à tout, toi, » remarque Morel avec un coup d'œil au pied de Jameau déjà équipé. « Toujours prêt, ma devise, tu sais bien. » Ils inspectent les placards. Le frigo débranché ne révèle rien d'autre que des jus de fruits en boîte et quelques canettes de cola zéro. « Tiens, de la limonade sans sucre. Tu crois qu'il est diabétique ? Aucune idée. Allons voir le reste. » Morel téléphone pour avoir une équipe scientifique. Dans la buanderie, un immense sèche-linge béant, mais vide, fait face à une machine à laver, vide également. Une petite étagère accrochée au mur étale des paquets de lessive et des bouteilles en plastique d'adoucissant. Ils en font rapidement le tour. Le sol nu ne leur montre rien d'autre que le reflet du vasistas sur le béton ciré. Le salon gigantesque et la salle à manger ensuite s'ouvrent tous les deux sur la terrasse comme ils ont pu déjà l'observer. Une visite des chambres ne donne rien de plus. Allons voir la cave. On fera le bureau après. Un congélateur, grand format, les attire aussitôt. Après un coup d'œil entendu, ils s'approchent, certains d'avoir trouvé quelque chose. Circonspect, Jameau constate que le cadenas est bel et bien enclenché et ferme le couvercle. On dirait que le serrurier va tout de même avoir du boulot, lance-t-il à Morel qui, en grande concentration, déchiffre l'étiquette d'une bouteille qu'il tient avec précaution à deux mains. « Monsieur ne se refuse rien, question Pinard, » annonce-t-il. « Ah bon? Parce que tu t'y connais ?»« Un peu, mon neveu. Je tiens cela de mon père, œnologue dans l'âme qui fait partie de la confrérie des Lichouneurs du Berry. »« C'est quoi, exactement? Une secte, le taquine Jameau ?» Avant que Morel puisse répondre, le serrurier fait son apparition en haut des escaliers. « C'est ici que ça se passe ?»« Tout à fait. » L'homme descend les marches, une caisse à outils à bout de bras. Il en sort un coupe-boulon hydraulique et sans difficulté fait sauter le cadenas. Jameau s'approche. « Tu penses ce que je pense ? » demande-t-il à Morel. « Je le pense. »« Voilà, messieurs. Il n'y a plus qu'à, » annonce fièrement le serrurier en enlevant la tige du cadenas pour eux. « À toi l'honneur, » fait Morel à Jameau avec un geste de la main en direction de l'appareil. Le couvercle se soulève en grinçant. Ils se penchent tous les deux et sortent les paquets de plats surgelés entassés pêle-mêle. « Filet de poulet au penne sauce tomate, raviolis aux épinards et aux chèvres, boulettes de bœuf sauce tomate, frites, pommes dauphines. Bon, le mec n'aime pas trop faire la cuisine, selon moi, mais il apprécie la bonne bouffe. »« Malbouffe, tu veux dire ?»« Bon, d'accord, mais tout de même des petits plats. La pâche à sœur, cuisseau de chevreuil, etc. Il n'y a rien là-dedans à part de la bouffe. Merde. » »« Tout à fait, on est gros gens comme devant. » Pourtant, j'aurais bien cru y trouver quelque chose. Ça avait l'air très prometteur. Je ne te le fais pas dire. Des bruits de pas retentissent au rez-de-chaussée. Voilà les gars de la scientifique. Ils remontent 4 à 4 l'escalier. Merci, les gars, d'avoir été si rapides, salue Morel. Tu penses, on n'a rien à faire en ce moment, alors tu nous sauves la vie, ironise l'un d'eux. Je vois que le boulot ne t'a pas encore fait perdre ton sens de l'humour. On cherche quoi au juste? « Aucune idée. On le saura quand on le trouvera. »« Ben voyons, fastoche. » Il se tourne vers son équipe. « Les gars, on retourne tout. » Puis à nouveau vers Morel et Jameau. « Bon, alors, vous avez quoi exactement ?»« Sa femme a disparu. Le mec a déménagé il y a quelques jours. Hier au soir, il a emporté plusieurs trucs dans une grosse valise, selon un voisin, et il serait revenu en taxi. »« Bon, il doit avoir une autre propriété quelque part. C'est dans la paperasse qu'on doit chercher. » Et si je puis me permettre, oui. Voyez le cadastre et les impôts pour l'adresse. En attendant, nous on regarde si on voit une trace quelconque de lutte. D'accord ? Bon plan, acquiesce Morel et Jameau de concert. Oh, et pensez aussi à regarder au nom de sa femme. Ces mecs-là font tout pour diminuer les redevances fiscales, foncières et autres.
Jameau est assis morose devant son ordinateur et consulte les données du cadastre quand sa ligne fixe clignote. Il décroche. C'est l'employé des impôts, département des taxes foncières, auquel il a adressé une requête au sujet des propriétés de Matisse.
« Bonjour, inspecteur. J'ai fait une recherche comme vous me l'avez demandé. Je n'ai rien d'autre comme adresse déclarée au nom de Monsieur Matisse Roland. En revanche, j'ai une propriété à Neuvy-Saint-Sépulcre au nom de Julia Matisse. Est-ce la même famille? Ça vous intéresse ?»«
Certainement. De quoi s'agit-il ?»
La dame est propriétaire depuis 12 ans d'un bois de 5 hectares avec une structure. Probablement un bâtiment agricole. Une grange ou un truc comme ça.
Vous voulez les coordonnées?
Oui, s'il vous plaît.
Jameau note l'adresse et se précipite dans le bureau de Morel en train de remplir de la paperasse.
On a une adresse, lui crie-t-il tout excité.
Morel, l'esprit ailleurs, met quelques secondes à comprendre.
Une adresse?
Oui, une baraque qui appartient à sa femme.
Sûr qu'il en avait aussi les clés, non?
On n'a rien trouvé dans la voiture à part un trousseau. Avec un peu de chance, elles seront dessus. Je vais les chercher, elles sont au scellé.
Morel attrape sa veste sur le dossier de la chaise et l'enfile sur le chemin du parking où il rejoint Jameau.
On doit prévenir quelqu'un, s'informe ce dernier crispé dans la limite de la vitesse autorisée.
Pas la peine. La commission s'étend à toutes les adresses du couple, inclusive voiture, bateau, etc. Donc, ça va.
Alors qu'ils sont presque dans Neuvy, Morel s'empare de sa tablette et consulte Google Earth.
On a le GPS, fait remarquer Jameau.
Oui, mais Google est bien plus fiable.
Jameau garde la voiture sur la place du champ de foire et se penche sur le plan avec Morel.
On est là.
Ah oui, tu n'as pas rentré l'itinéraire? Interroge Jameau.
Ben non, mais c'est là. Démarre et prends la première à gauche.
T'es sûr?
Affirmatif, vas-y.
Après quelques tournants de plus, ils sont devant un chemin de terre.
Voilà, c'est là au bout du chemin. Ils traversent la propriété. C'est après le petit bois.
Encore une centaine de mètres et ils débouchent dans une grande clairière où se dresse une longère berrichonne et ses dépendances.
Pas mal comme petite maison de vacances.
Oui, le gars du cadastre parlait de structure agricole.
Ils font le tour du propriétaire et regardent dans les bâtiments.
Tout est super propre, dis donc. Pas un brin d'herbe plus haut que l'autre ne dépasse des pavés. Les peintures sont pile poil.
Mais idée que si on trouve quelque chose, ce sera dans la maison ou dans la grange.
Ou dans le cellier attenant.
La porte du dit cellier s'ouvre en grand, leur livrant passage sans façon.
Sans surprise non plus, car il ne renferme strictement rien.
Là aussi, tout est d'une propreté presque suspecte. Un sol en grosse dalle de granit brut qui a été balayé récemment. Alors, la maison.
Jameau essaye 2 clés sans résultat.
Il s'empare d'une 3e, qui s'enclenche parfaitement et déverrouille la serrure.
Il y a encore un verrou.
Oui, je vois, ce doit être celle-ci.
Le verrou cède sous la pression de la clé tournée par Jameau.
Ils sont dans la cuisine. Des tomates rouges au sol, une nappe cirée sur la table, un évier immaculé. Pas un grain de poussière.
Comme si on était attendu, s'exclame Morel.
Toutefois, je doute que ce soit pour nous qu'on ait fait le ménage.
Tu m'étonnes.
Nous, on n'est peut-être pas attendu, mais sûr que le gars avait l'intention de revenir, continue Jameau.
Il se dirige vers le réfrigérateur.
Bon, il a de quoi nourrir toute une famille et...
Morel s'interrompt abruptement et lève la tête.
T'as entendu?
Quoi?
On dirait des coups quelque part, écoute.
Jameau perçoit alors, lui aussi, des coups étouffés.
Ça vient d'en haut.
Non, par là.
Morel indique la porte du fond qu'il rejoint en 2 enjambées.
En effet, les coups sont plus forts dès qu'il l'ouvre.
Ils proviennent d'une grande armoire.
Ne voyant pas de clé, il cogne sur le battant du plat de la main. Y a quelqu'un?
Des coups frénétiques retentissent de plus belle.
« Attendez une seconde, on va vous sortir de là. »
Puis à Jameau.
« Aide-moi, ces armoires se démontent facilement. On doit enlever le haut. »
Tous les deux s'arc-boutent pour soulever le dessus de l'armoire qui se déboîte sans problème. Il le pose sur le lit et s'attaque au flanc du meuble qui glisse sans encombre des rainures de l'ossature.
Ligotée et bâillonnée, une femme se tient recroquevillée, les genoux sous le menton, assise au fond de l'armoire. Elle leur lance des regards effarés.
« Vous n'avez rien à craindre, lui dit Morel. Nous sommes de la police. Inspecteur Morel et mon collègue, l'inspecteur Jameau. »
Il tend la main vers elle et l'aide à se mettre debout.
Les mouvements de la femme sont entravés à cause des liens à ses chevilles et à ses poignets. « Attendez, je vous retire votre bâillon. » Délicatement, Jameau tire sur le ruban adhésif. La femme gémit faiblement. « Vous voulez que j'arrête ?» Elle secoue la tête de droite à gauche en signe de dénégation. Il comprend qu'il peut continuer. Pendant ce temps-là, Morel est allé à la salle de bain et revient avec une serviette imbibée d'eau. « Prends, ça ira mieux avec ça. » Jameau mouille le scotch qui se détache petit à petit. Dès que ses lèvres sont libérées, la femme interroge. « Vous l'avez attrapé ?»«
Qui ?» répond Morel.
« Le mari de Julia, il l'a tué. »«
Vous n'êtes pas Julia ?» demande Jameau abasourdi.
« Non, je suis Clara. » Elle éclate en sanglots convulsifs. « Prenez votre temps. »
Morel retourne à la salle de bain chercher un gobelet d'eau. Jameau a détaché les liens de la femme. Elle prend le gobelet et boit avidement. «
Venez, descendons, nous serons mieux en bas pour parler. »
Docilement, elle se met debout, prête à les suivre. Elle jette un dernier regard à la chambre avec, dans les yeux, une expression que Morel ne sait pas situer. Peur, colère, peut-être un peu des deux à la fois. Une fois en bas, ils s'installent dans le salon. La femme dans un fauteuil et tous les deux s'asseyent aussi pour ne pas l'intimider. Il la laisse aller à son rythme. Elle aspire un grand coup pour chasser ses larmes qui reviennent au galop.
« J'étais ici quand Roland et Julia sont arrivés. Ou plutôt, quand Roland est arrivé. J'étais en haut, dans la chambre. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu sortir Julia de la voiture. Elle était toute molle, comme évanouie. Je ne savais plus quoi faire. Alors, je l'ai vu prendre une grosse pierre et lui fracasser le crâne à plusieurs reprises. J'ai hurlé d'horreur. Il m'a entendu. Il a levé la tête et c'est là qu'il m'a vu. Il est monté, m'a attaché et mis dans l'armoire. « Je m'occuperai de toi plus tard !» qu'il m'a crié. Elle ne dit plus rien, se tait les yeux dans le vague. Le silence s'installe. Avant qu'il ne s'épaississe trop, Jameau pose une question, bien qu'il pense déjà connaître une partie de la réponse. « Sans indiscrétion, Clara, que faisiez-vous dans leur maison et dans leur chambre ?» Clara menace à nouveau d'éclater en larmes, mais elle se ressaisit.
« Enfin, j'avais une relation avec Roland. Nous nous retrouvions souvent ici. Il m'avait téléphoné pour me dire qu'il y serait. Je voulais lui faire une surprise. »
Les larmes la terrassent malgré son emprise sur elle-même nouvellement retrouvée. Après un moment, elle reprend.
Julien n'était pas au courant. Il voulait divorcer, mais elle ne voulait pas.
Morel ne put s'empêcher d'exhaler un soupir à ce scénario tellement familier.
Donc, vous vous êtes dit, je vais le devancer à la maison et l'attendre.
Ben oui.
Elle renifle avec un sourire désabusé.
La surprise, c'est moi qui l'ai eue.
Appelle les gars, demande Morel à Jameau, qu'il retrouve Julien. Il l'a emporté derrière.
Ne vous inquiétez pas, on va la trouver.
Mais lui, il est où maintenant ? Demande Clara.
À l'hôpital pour quelques semaines, et d'après ce que vous nous dites, il ira ensuite en prison.
Clara écarquille les yeux révulsés. Mais alors, il ne serait pas revenu pour me libérer ?
À cette pensée, sa bouche s'élargit d'horreur.
N'y pensez pas, lui dit doucement Morel qui la voit sur le point de s'évanouir.
Nous vous avons trouvé.
Pauvre Julia, vous la trouverez aussi, mais trop tard, suffoque Clara que les sanglots envahissent.
Agathe ouvre la porte, surprise de la visite inattendue de Rose.
Bonjour, que se passe-t-il ? Demande-t-elle intriguée.
J'ai préféré passer te voir plutôt que de te l'annoncer par téléphone.
On a retrouvé Julia, c'est ça ?
Oui, malheureusement tu avais raison.
Oh mon Dieu, il l'a tué.
Oui, le salaud.
Il est à l'hôpital, accident de voiture. Ensuite, il ira en prison, direct.
On sait quand l'enterrement aura lieu ?
Il y a encore l'autopsie, Morel m'a mise au courant. Ce n'est pas joli joli.
Épargne-moi les détails. Je veux me la rappeler comme je l'ai vue la dernière fois.
Je comprends.
Qu'est-ce qu'il a eu comme accident ?
Il a essayé de s'enfuir et a embouti une camionnette.
Bien fait pour sa gueule. J'aurais été dévasté s'il en était mort. Un sort trop doux pour lui. Mais là... j'ai tout de même l'impression qu'il y a un peu de justice.
C'est sûr qu'il sera emprisonné ?
Oh oui, aucun doute là-dessus. En plus, Morel a dit que tu devrais porter plainte pour la dernière fois.
Je le ferai. Ça va aller ?
Oui, ça ira.
Alors, à demain.
À demain.